Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue pour notre émission Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Zoé Nolis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargée de communication et de récolte de fonds chez ADRA Belgium. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, Zoé, vous allez nous parler de fin d'année, puisque nous arrivons déjà à la fin de cette année 2021, et d'une campagne que vous lancez qui s'intitule Giving December. Vous pouvez nous dire d'où vient ce nom? Ce terme a une histoire, je crois, chez ADRA Belgium.
Voilà, tout à fait. Donc, en fait, le Giving December, il a vu le jour l'année passée, en 2020, au sein d'ADRA Belgium. Et l'idée nous est venue, en fait, suite au Giving Tuesday, qui est un mouvement mondial qui célèbre et qui encourage la générosité, l'engagement et la solidarité. Donc, ce mouvement est apparu en 2012 aux États-Unis, en réponse aux événements commerciaux qui étaient le Black Friday et le Cyber Monday. Et donc, l'année passée, face à la crise du Covid, nous avons décidé de ne pas nous limiter à une journée de solidarité, mais de transformer cela en un mois qui célèbre la solidarité, donc le Giving December. Donc, il faut savoir que le mois de décembre, en général, pour les associations, c'est un des mois les plus importants pour les organisations caritatives, puisque c'est un mois où la générosité prend le dessus et qui nous permet de mener à bien des projets tout au long de l'année suivante. Donc, sur la seule période du mois de fin d'année, nous recevons près de la moitié des dons de l'ensemble de l'année. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer une campagne sur tout le mois de décembre qui reprend différentes choses au sein d'ADRA.
Oui, donc cette campagne est propice au bilan puisque nous sommes en fin d'année et donc c'est l'occasion de revenir sur certaines actions qui ont été menées tout au long de l'année, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc, c'est l'occasion pour le bureau de faire une rétrospective sur ce qui a été réalisé durant l'année écoulée, que ce soit au niveau des projets de développement ou de l'aide d'urgence. Donc nous, en 2021, on a été actifs dans différents pays, donc par exemple en Mauritanie, en Somalie, en Mongolie, pour un projet de permaculture venant en aide à des agriculteurs, des anciens nomades qui se sont exportés en ville et qui en fait ont des problèmes pour subvenir à leurs besoins. Donc on a différents projets de développement qu'on résume en fin d'année pour aussi illustrer où sont partis les dons qui ont été récoltés. Donc, au niveau de l'aide d'urgence, ça a aussi été assez chargé, je vais dire, l'année 2021, puisque dès le début de l'année, je crois que c'était début février, on a été actif au Myanmar.
Oui, dans quel cadre ?
Au début février, il y a eu un coup d'État au Myanmar, donc il y a eu énormément de populations qui se sont retrouvées déplacées au sein du pays. Mmh. Et donc, le réseau ADRA s'est mobilisé afin d'offrir de la nourriture et des logements à des gens qui avaient dû quitter leur domicile suite à la prise de pouvoir de l'armée. On a aussi été actifs dans le cadre de la deuxième vague de coronavirus en Inde, donc ça, je pense que c'était au mois de mai, afin de venir en aide aux infrastructures médicales qui étaient complètement dépassées par le nombre de nouveaux cas de Covid. Et alors la grosse action d'urgence sur lesquelles on a été actifs également en 2021, c'était les, les inondations qui ont eu lieu au mois de juillet en Belgique.
Oui, on s'en souvient.
Là, on a eu. Voilà, je pense que mon directeur avait en effet parlé du sujet de manière plus approfondie.
Oui, tout à fait. Donc, à ce micro, oui.
Voilà, donc on a eu énormément de volontaires qui ont été dans l'arrondissement de Verviers pour aider les sinistrés suite aux terribles inondations qu'il y a eu mi-juillet. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous, en fin d'année, de pouvoir vraiment illustrer où l'argent récolté pendant l'année a été investi. Et donc, on profite justement de notre campagne Giving December pour refaire un résumé des différents projets, des différentes actions qui ont eu lieu durant l'année.
Et puis, durant cette campagne Giving December, il y a aussi une opération que vous menez, une opération de fin d'année qui s'appelle Colline Noël. Et ça, c'est une opération qui est propre à Adra Belgium. Vous pouvez nous en parler aussi pendant cette période de fête où abondent les cadeaux en général?
Ça, c'est une opération qui existe depuis 2016 au sein d'Adra Belgium, où jusqu'à l'année passée, nous proposions aux sympathisants d'Adra de remplir eux-mêmes un colis avec un cadeau de Noël pour un enfant défavorisé dans un pays d'Europe de l'Est.
Avec leurs propres affaires, leurs propres cadeaux, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc on donnait des indications afin que tous les colis reprennent le même genre de choses, donc que ce soit des jouets, du petit matériel scolaire. Il y a des articles de toilette aussi, ou des vêtements, et aussi des petites gourmandises, donc des biscuits, des chocolats pour les enfants. Et l'année passée, on a été obligé de repenser l'action pour pouvoir quand même l'effectuer en 2020 avec la pandémie. Et donc, depuis l'année passée, on propose une possibilité de faire un colis sur Internet, en ligne, où on propose un catalogue pour les enfants, avec différentes possibilités où les gens peuvent sélectionner les différents petits cadeaux qui seront dans le colis. Et nous avons mis en place un partenariat avec la Serbie afin que les colis soient fabriqués directement sur place et distribués à des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté ou qui risquent d'y tomber. Donc il y a énormément d'enfants qui vivent dans des conditions déplorables en Serbie, qui sont généralement des enfants provenant soit de familles nombreuses ou dont les personnes responsables n'ont pas beaucoup de revenus pour s'en occuper convenablement. Et donc souvent, les cadeaux de Noël se limitent à une nouvelle paire de chaussettes ou une bouteille de limonade. Et donc, on avait envie de pouvoir offrir des cadeaux à des enfants défavorisés et un petit peu égayer leur vie en période de fin d'année, puisque on oublie souvent, quand on vit dans des pays développés comme la Belgique, que tous les enfants n'ont pas les mêmes possibilités que celles qu'on peut avoir ici.
Oui, c'est important de le rappeler. Zoé Nolis, vous nous disiez que les colis seraient confectionnés sur place en Serbie. Ces colis seront confectionnés par Adra Serbie?
Voilà, tout à fait. On a un partenariat avec le bureau d'Adra local qui s'occupe de préparer les colis et de la distribution et qui évidemment nous fait parvenir des photos et des témoignages d'enfants là-bas qui ont reçu un colis afin qu'on puisse partager ça avec les donateurs belges. Donc voilà, et on a aussi la possibilité pour les groupes de volontaires en Belgique de trouver un partenariat avec des associations locales, donc sur le territoire belge, qui viennent en aide aux enfants défavorisés. Et donc là, ils peuvent également eux-mêmes fabriquer les colis et s'occuper de la distribution ici en Belgique pour des enfants dans le besoin.
Et alors donc les auditeurs qui nous entendent là en ce moment et qui souhaitent soutenir financièrement cette opération Colline Noël, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre?
Tout est sur notre site internet, donc adra.be, et il y a donc le catalogue en ligne avec les différentes possibilités pour eux. Donc c'est assez simple, toute la procédure est expliquée, mais donc la première chose est de fabriquer un colis, que ce soit c'est une activité aussi qui peut être faite avec des enfants ici en Belgique. Et puis ils peuvent également personnaliser le colis en envoyant un mail au bureau d'Adra avec que ce soit une photo ou un dessin, et tout ça sera transmis à notre bureau local qui s'occupera de fabriquer et de distribuer les colis sur place.
Donc tout ce dont vous nous avez parlé durant toute cette émission, Zoé Nolis, nous pouvons le retrouver sur adra.be, où là toutes les informations sont apparentes, sont accessibles.
Voilà, tout à fait. Donc il y a sur notre site un onglet qui s'appelle Nos actions. Et donc, il y a les actions chaque année. Et dans les actions en 2021, il y a les informations sur les colis de Noël pour l'année 2021.
Voilà, merci beaucoup Zoé Nolis d'être venue à ce micro de Parole Solidaire nous parler des actions d'ADRA Belgium et notamment de cette campagne de fin d'année Giving December. On se donne rendez-vous le mois prochain pour parler encore de nouveaux sujets qui ont un lien avec la solidarité internationale. À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
C'était Parole Solidaire avec Zoé Nolis d'ADRA Belgium. Une émission sur les solidarités internationales.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193 Damary-Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire.
Votre histoire.
Votre histoire compte.
Je m'étais préparée à partir, à mourir, et puis au bout d'une année, ben, malheureusement, je ne suis pas morte. Je dis malheureusement d'un côté, heureusement de l'autre.
La souffrance a-t-elle un sens ? Pourquoi s'accrocher à la vie quand la douleur devient insupportable ? La mort est-elle une solution ? Que de questions dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Notre invitée, Nouchin Kazonav, aurait dû être emportée par un douloureux cancer des os en un an. Mais voilà, ça fait 14 ans que ça dure. C'est vous l'histoire a recueilli son témoignage, un magnifique témoignage de vie. Nouchin Kazonav vient de Reims, en France. Elle est éducatrice spécialisée, un métier qu'elle a dû abandonner à cause d'un problème de santé, comme elle dit. Elle est atteinte d'un ostéosarcome, autrement dit un cancer des os. La jeune femme souffre à tel point qu'elle a voulu adhérer à une association d'aide au suicide. Elle en parle sans tabou au micro de notre journaliste Christine Raymond.
À on a découvert mon cancer après que j'ai changé de médecin traitant. Parce que le premier médecin que j'avais, il disait, comme j'ai des prothèses au niveau de la hanche et du genou, il disait que c'était dans ma tête. J'avais mal dans ma tête, c'était des choses dans ma tête. Donc il me donnait des antidépresseurs que je ne prenais pas. Puis après, j'ai rencontré un ami pharmacien qui m'a dit, j'ai un médecin, va le voir, il va peut-être essayer de t'aider à trouver ce que tu as. Lui m'a orienté vers un gars qui fait des scintigraphies osseuses. Et j'y suis allée le jour même. Et le jour même, j'ai vu la tête du gars qui faisait ma scintigraphie. Et puis il a fini par me dire que j'avais un cancer des os. Donc c'était pas dans ma tête, c'était bien dans mes jambes au début. Et puis, donc première chimio en 98. Normalement, on vit une année avec ce genre de cancer. Donc voilà, je m'étais préparée à partir, à mourir, à partir avec Dieu. Donc, ça me faisait pas peur. Je dis ouais, parce que vivre avec un cancer des os, ça fait quand même mal, malgré la morphine, malgré le traitement de base, malgré tout ce qu'on peut te proposer. Mais voilà quoi. Et puis au bout d'une année, ben, malheureusement, je ne suis pas morte. Je dis malheureusement d'un côté, heureusement de l'autre. Et puis un soir. Donc il y a un soir où j'ai regardé une émission sur qui se passait en Suisse, où on laissait mourir les gens qui voulaient mourir, mais pas pour, juste pour le plaisir de mourir, c'est parce qu'il y avait une raison valable, que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Donc j'ai pris contact avec eux, j'ai pris leur numéro de téléphone, je les ai appelés, mais ils ont voulu savoir un peu ce que j'avais comme maladie, qui j'étais, pourquoi je voulais en finir. Donc ils ont aussi demandé si j'avais un cancérologue qui était d'accord avec ma démarche, et un médecin traitant qui était aussi d'accord avec ma démarche. Ensuite j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne. Alors, elle est plus psychologue qu'autre chose, cette dame-là. Elle s'occupe spécifiquement d'une seule personne. Et elle rencontre ton médecin traitant, ton cancérologue, et elle voit dans l'état où tu es réellement. Et après, ils se réunissent entre eux. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas tout eu, hein. Et ils décident, s'ils t'acceptent ou ils t'acceptent pas. Donc, il y a une adhésion à payer pour l'année. Et après, donc, si vraiment c'est le temps de partir, tu fixes une date avec eux. Si tu veux prendre un membre de ta famille ou quelqu'un ou des amis qui veulent aussi être proches le jour où tu décides de mourir, voilà, tu peux aller avec. Mais il faut aller en Suisse parce qu'en France, ça ne se fait pas. On n'a pas le droit de donner la mort à quelqu'un, quoi.
On pourrait bien sûr parler d'un point de vue éthique, la position en fait de chaque gouvernement par rapport à l'aide au suicide. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est de comprendre en fait ce qui t'a poussé à prendre contact avec eux. En fait, on a bien compris que tu vis avec des douleurs qu'on peut peut-être même pas imaginer. C'est ça, surtout, c'est cette difficulté face à la souffrance qui t'a principalement poussé à les contacter.
Oui, c'est quand il n'y a plus de solution au niveau médicament. La morphine, c'est déjà quelque chose de costaud. Mais quand au bout d'un moment, tu vois que la morphine ne fait plus effet, tu n'es plus capable de tolérer la douleur. Enfin, moi, à la fin, je restais enfermée à la maison pour pas agresser mes voisins ou les gens que je pouvais rencontrer, parce que tellement j'avais trop mal. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une belle façon de partir, quoi. On a un seuil de tolérance qu'on peut plus, après, on peut pas aller au-dessus, je pense.
Tu parlais de la mort de façon plutôt paisible, tu disais ça me fait pas peur de mourir. Pourquoi en fait ?
Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu en 87 et je sais qu'à partir du moment où on appartient à Dieu, on va dans un pays qui s'appelle le paradis et là il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus toutes ces choses-là. Alors oui, c'est bien de vivre, c'est bien de continuer de sur terre, de donner, de partager tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu, mais aussi je pense qu'on est tous, tous les chrétiens ont hâte aussi d'aller rejoindre Dieu, quoi, là où il n'y a plus toutes ces choses pas belles sur cette terre. Puis j'ai perdu mon mari et mes enfants, donc j'ai aussi hâte d'aller les rejoindre, quoi.
Est-ce qu'on est à la fois partagé entre l'envie de rester, de continuer à vivre, est-ce qu'il y a un instinct de survie qui pousse quand même à retarder la décision de mourir quand même?
Bah, apparemment le mien, oui, il a l'air bien d'être bien costaud. Plusieurs fois j'ai voulu partir et puis je pense que c'est Dieu qui a pas permis, donc c'est qu'il y a encore des choses, il y a encore, je pense que j'ai encore le potentiel de pouvoir vivre et d'encaisser encore un peu plus la douleur. Apparemment, quoi, c'est. Quand moi je me décide d'aller voir, d'aller les rencontrer, j'ai pris rendez-vous et tout, hop, tout à coup il y a la douleur qui s'apaise quand même, quoi. Donc je sais que Dieu il décide.
Il y a toute une polémique, et l'Église condamne le suicide. Comment tu te positionnes personnellement par rapport à ça?
Alors je dis qu'il faut passer par la douleur, il faut passer par les choses terribles. Personne ne peut dire on a le droit, on n'a pas le droit. Je dis c'est vrai qu'il y a que Dieu qui a le droit de vie ou mort sur nos vies, mais je pense que Dieu, avec l'amour qu'il a, il comprend aussi les gens qui veulent en terminer. Je sais aussi que dans l'église où je suis, les trois quarts des gens sont contre, mais c'est pas non plus des gens qui souffrent. et qui encaissent autant de choses que entre autres que je suis obligée d'encaisser, quoi. Enfin, moi, je condamne pas les gens. Je dis, faut être courageux aussi pour se donner la mort, quoi. C'est courageux. Je trouve que c'est courageux.
Nouchine est chrétienne. Tout à l'heure, elle évoquait sa foi. Alors, inévitablement, on se demande pourquoi Dieu ne la guérit-il pas puisqu'il est tout puissant.
Alors, je doute pas que Dieu soit capable de guérir, mais je sais aussi qu'il est capable de laisser les gens, entre autres par rapport à ma santé. Tout au début que je suis allée à Colmar me faire soigner, qu'on a détecté mon cancer, j'ai eu le privilège, entre guillemets, de rencontrer un petit garçon de 11-12 ans, qui avait eu un cancer. Et j'ai très bon contact avec mon cancérologue à Colmar, et il m'a demandé de rencontrer ce petit bonhomme qui venait d'une fratrie de 11 enfants, le petit dernier. Donc il était en train de mourir, il avait aussi un cancer des os, ce petit gars-là. Et simplement, le cancérologue m'avait dit, puisque tu parles facilement avec les autres, est-ce que tu pourrais essayer d'aller voir un petit peu ce petit gars-là? Son père, sa mère, ses frères et sœurs le battaient régulièrement. Et du jour où il est tombé malade, ils l'ont déposé à l'hôpital. Et du jour où ils ont su qu'il avait un cancer, c'était de sa faute. Et en discutant avec ce petit gamin, je me suis aperçue que jamais personne ne l'avait pris dans les bras. Jamais on lui avait dit je t'aime. Jamais on l'avait même fait un câlin et des choses comme ça. Et donc, pendant plus d'une semaine, moi, j'allais tous les jours le voir parce que j'étais hospitalisée aussi. On passait du temps ensemble, puis au fur et à mesure, je me suis approchée un peu plus de lui, sans trop lui faire peur, parce que je sais que c'est des choses qu'il aimait pas. Et c'est lui qui, donc je lui ai dit, pleurer, c'est humain. Avoir besoin de bisous, de câlins, de dire je t'aime à quelqu'un, ou d'entendre quelqu'un te dire je t'aime, c'était quelque chose de tout à fait humain. Et la toute dernière semaine où il a fini, dans sa dernière semaine de vie, il m'a demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Donc je l'ai pris dans mes bras et j'ai senti, il a fait un gros comme ça, mais c'était trop beau, un gros soupir. Et ça a duré pendant peut-être une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et il m'a dit merci. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un me prend dans les bras. Il a dit, tu avais raison, on se sent bien. Et il s'est endormi. Et il y a une infirmière qui est rentrée à un moment donné. Elle est venue voir et puis je dis, chut, il dort. Et elle me dit, bah, attends, je vais te le retirer des mains. Et elle, je lui dis, non, laisse-le, il dort. Je veux qu'il se réveille comme ça, comme quoi, quand il s'est endormi, dans mes bras, qu'il réalise qu'il était encore dans mes bras, quoi. Et moi, ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'il était mort, ce petit gars-là. Alors, ça m'a fait drôle, et en même temps, je suis contente parce qu'il a appris, dans ses dernières petites heures de vie, que les bras d'une maman, parce que je suis maman, dans le bras d'une maman ou les bras d'un adulte, il y avait le droit aussi, quoi. Alors, à 11 ans, voilà, il est parti. Et Dieu a permis. Moi, je dis que c'est Dieu qui a permis que je rencontre ce petit gars-là. Donc, même si des fois je me fâche parce que je souffre trop, j'ai quand même de belles rencontres. Je peux quand même témoigner de tout ce que je vis au travers de mon cancer. Et celle-là, cette histoire-là avec ce petit bonhomme, c'est la plus belle des histoires, quoi. Mais c'est en même temps une belle preuve d'amour de Dieu, d'utiliser ma santé, d'utiliser aussi qui je suis, même si je ne suis pas tout le temps commode, même si des fois j'ai mal, voilà quoi. C'est un beau cadeau de la part de Dieu. Et je sais que, pour l'instant, je sais qu'il ne me guérit pas, c'est parce qu'il a besoin de ma maladie, de ce que je traverse aussi pour encourager. Et j'ai eu la chance d'avoir été encouragée par pas mal de gens au travers de ce que je vis, quoi.
Alors peut-être que des personnes qui t'entendent se disent « mais si vraiment c'est un Dieu d'amour, mais comment ça se fait alors qu'il laisse souffrir comme ça ?» C'est des grandes questions, mais c'est des questions quand même que les gens se posent.
Ouais. Ben, il laisse souffrir parce que je suis chrétienne et il n'y a pas de raison qu'il ne me laisse pas moi souffrir parce que je suis chrétienne et qu'il laisse quelqu'un qui n'est pas chrétien souffrir. Le soleil il brille sur la tête de tout le monde, la pluie elle tombe sur la tête de tout le monde, donc la maladie elle est aussi à tout le monde, et puis la maladie elle est là depuis la nuit des temps, quoi. C'est comme ça, et après c'est Dieu qui choisit de guérir ou de pas guérir. Et
ça a jamais fait ébranler cette foi, cette confiance que tu as en lui?
Ma maladie, jamais. Jamais. C'est les souffrances de temps en temps que je dis à Dieu, mais pourquoi tu trouves pas que j'en suis assez comme ça, c'est bon, j'en ai ras le bol, quoi. Puis après, hop, une fois que la grosse tempête, j'appelle au secours, j'appelle des amis pour prier et tout, puis après, une fois que la grosse tempête est passée, voilà, quoi, ça passe. Mais voilà, mais je suis sûre que Dieu, il préfère m'entendre râler une bonne fois, puis après, voilà, il dit, oh, dans quelques temps, ça va aller mieux. Et puis c'est vrai, quelques temps après, ça va mieux, quoi.
La tranche de vie de Nouchine nous montre à quel point Dieu donne du sens à nos existences, quand bien même nous passons par le pire. Il reste à nos côtés et nous prouve notre valeur. À bientôt.
Vous vous sentez sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple, depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.